Europe 1.
Votre invitée Sonia Mabrouk est professeure de français, co-auteure de Ces petits renoncements qui tuent aux éditions Plon.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Valogne.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien en exclusivité. Précisons que votre voix a été modifiée, que le nom sous lequel vous intervenez est un pseudonyme. Vous êtes à l'origine du livre Ces petits renoncements qui tuent aux éditions Plon, livre dans lequel vous témoignez de votre quotidien auprès de la journaliste Karine Azopardi, le quotidien d'un professeur de lettres passionné par son métier, par sa mission depuis 30 ans, mais qui voit l'entrisme islamiste gangréner l'école. On va s'y attarder longuement, mais tout d'abord, ce témoignage est anonyme pour des raisons évidentes de sécurité, mais est-ce que vous avez hésité? Certains, comme Didier Lemaire, professeur à Trappe, que nous avions ici même reçu, avaient alerté à visage découvert. Qu'est-ce qui vous a définitivement convaincu qu'il ne fallait pas révéler votre identité?
C'est une discussion qu'on a eue avec la journaliste Karine Azopardi. On en a longuement parlé et finalement on a tranché dans le sens de l'anonymat parce que, eh bien, écoutez, j'aspire à une certaine méconnaissance publique, à une certaine tranquillité. Je voulais pas me sentir en porte-à-faux par rapport à mon institution et puis par rapport à ma hiérarchie. Voilà, je voulais pas qu'on voit ça comme un acte déloyal et puis ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre, hein. Vous avez ce genre de publication. Et puis, je ne voudrais pas que les choses s'emballent dans un sens aussi comme dans un autre, de manière publique. Et puis, j'ai pas envie de devenir une cible de qui que ce soit et d'être récupéré par qui que ce soit. Donc, j'ai préféré l'anonymat. Je peux concevoir que ensuite on peut voir derrière tout ça quelque chose de l'ordre de sensationnaliste, mais ce n'est pas le cas. Donc. C'est pour toutes ces raisons que nous avons opté pour la confidentialité.
Et on les comprend parfaitement. Alors vous êtes professeur, comme on dit, dans une banlieue difficile de la région parisienne. Le fanatisme islamiste qui a mené à la décapitation de Samuel Paty, vous l'avez vu progresser, prospérer, s'enraciner dans notre école. Et il y a cette phrase saisissante, je voudrais qu'on démarre par cela, page 23. Samuel Paty, ça aurait pu être moi. Est-ce que vous vous êtes imaginé le même sort en faisant votre travail, hein, simplement votre travail?
Disons que cette phrase, mon cas personnel n'est pas très très important. Quand je dis ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un professeur lambda, parce que je sais que vous avez reçu David Dinota l'année dernière, dont j'ai lu le livre, qui m'a fait une très forte impression, qui est un livre absolument magistral. Qu'est-ce que décrit David Dinota? Il décrit le mécanisme, l'engrenage d'une tragédie. Donc, au sens antique, presque du terme, si vous voulez. Hein, quand je dis ça aurait pu être moi, je ne cherche pas à tirer la couverture vers moi, ce n'est pas du tout la question. C'est que n'importe qui aujourd'hui aurait pu terminer en fait divers tragique comme celui-là.
Quand vous citez le livre de David Dinota, c'est une enquête hein, sur ce qui s'est passé, d'ailleurs au sein de l'académie, de la hiérarchie autour de l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous imaginez cette fois, parce que c'est la question que l'on se pose tous en vous écoutant, que la hiérarchie, l'académie, que toute l'éducation nationale soutiendrait aujourd'hui un professeur dans cette situation, ou alors le sursaut n'a pas encore eu lieu?
Écoutez, j'ose croire. Précaution oratoire. J'ose croire que les instances académiques et surtout institutionnelles ont pris la mesure de la gravité.
Mais votre conviction profonde, quelle est-elle?
Je pense que maintenant, alors très honnêtement, et je pense que ça fait un effet d'électrochoc. Je pense que c'est un tournant. Il y aura un avant, un après. Et que maintenant, il y a certains tabous qui sont levés très clairement, qu'on a des discussions très claires autour de cette problématique en salle des professeurs. Donc ma conviction profonde, c'est que je pense qu'on serait beaucoup, beaucoup plus prudent qu'on ne l'a été, parce que là, on a quand même fait preuve de légèreté, sinon de frivolité.
C'est intéressant, vous parlez de vos collègues, évidemment des professeurs, avant qu'on en vienne aux élèves. Il y a un enseignant qui vous dit, je crois que c'est quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, il vous dit, le vrai danger, c'est l'islamophobie. Mais cet argument que vous avez sûrement entendu plusieurs fois, trop de fois, de quoi est-il le révélateur, selon vous?
Il est le révélateur d'une forme d'occultation, voire de dénégation, au sens psychanalytique du terme, du réel, tout simplement. C'est une réfutation du réel. Donc voilà, l'idéologie se pense plus forte que le réel, à mon sens. Voilà.
Ils sont nombreux, ces professeurs?
Non, attention, c'est très très marginal. De même que je ne voudrais pas qu'on croie que je suis en train de parler d'une cinquième colonne islamiste qui sont en train de noyer l'éducation nationale. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Donc ce qu'on dit simplement, c'est que c'est ce livre, c'est... au quotidien, on constate comme ça un certain nombre de d'anecdotes qui sont révélatrices d'un certain état d'esprit, d'une certaine ambiance.
Parlons-en, parce que justement la journaliste Karine Azopardi, avec votre récit à travers votre quotidien, les décrit avec beaucoup de précision. Quelques jours après, là encore une fois, la décapitation de Samuel Paty, vous dissertez, Laurent Lavande, sur l'art de la caricature dans votre classe. Vous tentez d'expliquer finalement un héritage, une tradition française, et puis il y a un silence et cette remarque d'un élève: Samuel Paty ne méritait pas la mort, mais il ne faut pas se moquer du prophète. Comment vous réagissez et comment réagit le reste de la classe ?
Comment ? Alors, c'est le 8 mai, si vous voulez. Donc, ça s'appelle une dénégation. Là aussi, donc, ce sont des jeunes gens qui sont en construction, puisque ce sont des adolescents, ils construisent leur identité, ils sont en recherche. Il faut être patient, il faut expliquer ce que c'est que le registre de la satire, ce que c'est que la caricature, ce genre de choses. Il faut faire un cours, en fait.
Mais on essaie de se mettre à votre place ce jour-là ou quelques jours après l'émotion qui nous a tous saisis, mais qui vous a saisi, vous, dans vos tripes, après la mort de votre collègue Samuel Paty, et qu'un élève vous dise cela. Comment vous ressortez d'une classe, vous qui avez cette mission vraiment, et vous croyez en votre travail, quand un élève vous dit ça? Est-ce que vous dites, ça vaut le coup que je continue?
Toujours. Je ne vous le cache pas. C'est éprouvant, c'est fatigant.
Physiquement, vous le racontez, hein? Vous êtes en âge ce jour-là?
Oui. Il faut mouiller la chemise au propre, comme au figuré. Il faut pas hésiter à déranger les élèves. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, on est aussi un petit peu. Bon, on entend souvent ce genre de remarques. Donc au bout d'un moment, on est rodé et on sait ce qu'il faut répondre. Vous voyez, quand on vous dit par exemple deux poids, deux mesures, on autorise les caricatures du prophète, mais on interdit Dieudonné de s'exprimer. Vous voyez, donc voilà, après, au bout d'un moment, on sait ce qu'il faut répondre aussi.
Oui, mais Laurent Vallogne, vous le savez.
Oui.
Est-ce que les autres professeurs, alors, enseignants, parfois plus jeunes,
savent comment
se comporter face à ce genre de remarques?
Il y a certainement aussi le fait qu'il y a un déficit de formation des collègues. Et donc, et je parlais tout à l'heure de prise de conscience, hein, d'électrochoc. Quand même, il faut quand même rappeler que M. Blanquer, et je pense que le ministre actuel, M. Ndiaye, sont dans la continuité, a mis en place un plan de formation qui doit se déployer sur tout le territoire, de formation de toute la communauté éducative sur la laïcité et les valeurs de la République.
Alors, c'est intéressant parce que vous parlez de laïcité dans votre livre, mais est-ce vraiment un problème de laïcité? Certains disent que c'est un problème de culture et de civilisation qui s'entrechoquent. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la laïcité ici qui est en débat? Vous, le professeur, vous, l'enseignant, qui l'éprouvez quasiment tous les jours, au quotidiennement.
On est dans une ère post-séculaire. Donc, vous voyez, mais ça touche pas simplement l'Occident. Hein, donc, ça touche aussi, pas l'Ouest. Enfin, ça touche aussi, vous voyez, la culture nord-américaine. Je l'aurais pas formulé de cette façon-là. Je dirais simplement que il y a quelque chose qui va vers l'effacement du processus de sécularisation.
Racontons encore une fois, on va dérouler tout ce qui était écrit, puis après il y aura l'analyse, parce qu'il y a d'autres phrases très révélatrices dans ce livre. Vous racontez aussi l'habillement, tout simplement, des élèves, les jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses à porter l'abaya, c'est ce vêtement qui se porte au-dessus d'autres vêtements, et lorsqu'elles sortent du lycée, elles mettent une cagoule, parfois le voile, les gants, peut-être les trois, et vous ajoutez, moi je trouve cette phrase, et nos auditeurs vont trouver qu'elle est terrible, dévastatrice, nous nous y sommes habitués.
Oui, il suffit d'aller dans certains quartiers de la banlieue parisienne pour voir que ce sont des choses qui se sont banalisées au quotidien. Donc, dans la rue, ça pose pas du tout un problème laïque. Je veux dire, donc c'est pas
dans l'enceinte du lycée.
Mais dans l'enceinte scolaire, les tenues vestimentaires sont problématiques, oui.
D'où la question sur le titre, justement, ces petits renoncements qui tuent. Renoncement, c'est une somme de recul, de peur, de crainte. Peur d'être traité de raciste, d'être traité d'islamophobe. Est-ce qu'il y a aussi de la complaisance, parfois, consciente?
Alors, disons que moi, j'ai fait beaucoup d'établissements scolaires. Hein, ce que je veux dire, c'est que d'un établissement scolaire à l'autre, la direction, les chefs d'établissement ne vont pas réagir de la même façon. Et même à l'intérieur d'un établissement, la direction ou même les collègues, certains seront très opportunistes, plutôt attentistes ou même frileux, d'autres chefs d'établissement prendront leurs responsabilités, vous voyez. Donc ce qui manque, c'est donc une ligne directrice dans tout ça, en fait.
Vous décrivez aussi, Laurent Vallogne, une montée concomitante de l'antisémitisme avec des propos comme la Shoah business, une haine des juifs, en tous les cas les juifs pris pour cible comme étant les gagnants du système. Est-ce que vous avez encore des élèves français de confession juive dans vos classes?
Oui.
Donc la mixité pour vous, j'allais dire, confessionnelle et aussi sociale, est encore d'actualité dans ce lycée de la banlieue parisienne.
Oui.
Il n'y a pas eu d'exode, il n'y a pas eu de départ.
Non, moi, c'est pas quelque chose que j'ai constaté.
Il y a aussi la contestation des cours. La liste est longue des incidents quand vous soumettez un texte, un pamphlet de Voltaire, lorsque vous projetez aussi la gravure de Charles-Nicolas Cochin. On sait que tout en haut, au-dessus, il y a au sommet, il y a la vérité. Et un élève vous rétorque. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus?
Non, ce qu'il y a au-dessus, c'est la théologie, c'est Dieu.
C'est Dieu. Donc Dieu au-dessus de tout.
Bien sûr, Dieu est au-dessus de tout.
Les mais... valeurs religieuses devant les valeurs, ou en tous les cas, ce qu'on partage dans la République.
C'est pour ça que je formule les termes, les choses en termes de désécularisation, vous voyez, plutôt qu'en termes de conflit de civilisation ou de culture. Donc, c'est un problème de valeurs, tout simplement.
Quand c'est un livre aussi qui dénonce, on va voir l'analyse avec Karine Azopardi, il y a eu d'autres ouvrages. Ça fait 30 ans qu'il y a ces alarmes qui sont tirées. Il y a aussi, je pense, le rapport de l'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin. Est-ce que vous avez espoir que les choses changent?
Alors, il y a 20 ans, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Vous avez cité Jean-Pierre Aubin, mais Jean-Pierre Aubin, donc inspecteur à la retraite, a été contacté, il a refait un rapport récemment, et c'est ça d'ailleurs qui a déclenché, vous voyez, cette formation, ce dispositif de formation nationale, donc des maîtres sur la laïcité et sur les valeurs de la République. Là, il y a un livre qui vient de sortir aussi de Yanis Roder, qui fait les mêmes constats que le nôtre. Donc, vous voyez, les choses commencent à être dites, et il me semble qu'il y a quand même un début de prise de conscience.
Elles commencent à être dites, on est dans le constat, mais l'action, la réaction, le sursaut.
Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait une inaction, parce que, vous voyez, par exemple, en 2004, donc il y a une loi, moi j'enseignais jusqu'en 2004, hein, pendant 14 ans, sur le voile, c'était compliqué, il y avait des collègues, moi, avec des classes que j'avais en commun avec d'autres collègues, qui acceptaient le voile, moi je ne l'acceptais pas, donc vous voyez, donc en 2004, il y a une loi qui a été faite, qui est très claire, il y a des outils, rappelons quand même que le ministre de François Hollande, que Vincent Peillon, donc, avait proposé ce qui s'appelait la charte de la laïcité, vous voyez, donc il y a des outils qui sont proposés, donc utilisons-les.
Vous y croyez toujours? Malgré ce qu'on peut lire, parce que je précise à nos auditeurs, et avec le récit rapporté par Karine Azopardi, vous vivez des moments difficiles. Vous êtes chez vous, après le terrible choc de Samuel Paty, vous connaissez des moments extrêmement
oui,
noirs.
Parce qu'il y a eu un effet de sidération. Parce que c'est quelque chose qu'effectivement, qui a affecté beaucoup de collègues aussi, pas simplement moi. Mais... moi, je persiste à dire que, si vous voulez, il y a une majorité de musulmans en France qui pratiquent leur foi. Le musulman lambda, il pratique sa foi tranquillement dans son coin. Et ces gens-là sont pris en otage, si vous préférez, par des salafistes. Il faut être clairement, donc il faut dire les choses clairement.
C'est un débat qui est piégé. Vous craignez, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça l'une des raisons de l'anonymat, c'est de ne pas être instrumentalisé par les uns, par les autres.
Oui, on est sur une ligne de crête. On est sur la ligne de crête d'un côté, si vous voulez, où il faut dénoncer ce que le philosophe Abdelwahab Medhab appelait la maladie de l'islam, hein, qui est un livre qui a été écrit il y a quand même plus de 10 ans, ou un philosophe comme Abdel Pidar aujourd'hui, qui est très impliqué sur ces questions. Hein, donc il faut dénoncer ça. Et vous voyez, et d'un autre côté, ne pas être récupéré par l'extrême droite qui justement va faire litière de toutes ces questions.
Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui?
Ouais, moi, j'insiste, je fais le plus beau métier du monde, je suis très heureux dans ma salle de classe. Avec mes élèves, quand je vois qu'il y a des étincelles qui s'allument quand on étudie un poème de Rimbaud ou un texte de La Fontaine, c'est un vrai bonheur. On se dit, bon ben voilà, on a réussi son coup.
Donc malgré les difficultés, les renoncements, il y a toujours dans ce tableau noir de la couleur.
Mais bien sûr.
Et ben c'est l'espoir qui prime. Merci beaucoup, Laurent Vallone. Alors nos auditeurs avec la caméra ne verront pas votre visage, ce n'est pas votre nom, vous ne serez pas reconnu, mais on sait que c'est un professeur qui aime et qui aimera toujours sa mission et son métier. Merci encore et bonne journée à vous.
Également, merci.
Merci Sonia Mabrouk, merci Laurent Vallone. Et je précise que cet entretien a été enregistré hier après-midi. Je redonne le titre du livre de Laurent Vallone, « Ces petits renoncements qui tuent », c'est paru aux éditions Plon.